béatitudes. Cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est un des textes les plus connus, les plus aimés aussi, de toute la parole de Dieu, et bien légitimement. On peut remarquer que c'est le début du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. Avant, il y a eu seulement les récits de l'enfance de Jésus, la prédication de Jean-Baptiste et les tentations au désert. Autant dire que c'est le début du corps de l'Évangile. En tout cas, c'est la première parole publique de Jésus. C'est en même temps l'introduction de sa prédication, presque un condensé de celle-ci, et déjà, pour de nombreux chrétiens, son point culminant, comme une sorte de trait distinctif de ce qu'est tout l'Évangile, cette parole qui ne ressemble à aucune autre. On goûte tellement ces huit paroles que, généralement, on passe sous silence la très courte introduction à cette proclamation. C'est seulement un tout petit verset. Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. C'est très court, ça paraît pas tellement signifiant. Ça paraît être seulement le cadre géographique du discours. Mais dans la Bible, la géographie, ça a souvent beaucoup de sens. Et quand on entend « Jésus gravit la montagne », on ne peut pas s'empêcher de penser à un autre verset, « Moïse gravit la montagne ». Il y a beaucoup de similitudes entre la montée sur la montagne par Jésus et la première par Moïse. Une montagne, effectivement, d'abord, que ce soit le Sinaï ou une colline près de Capharnaüm. Une proclamation, les 10 paroles que Dieu donne à Moïse, ou bien les béatitudes. Et puis, une entrée, une inauguration. Le peuple des Hébreux va devenir un peuple en recevant sa loi, ou bien l'inauguration du royaume des cieux, dont la proclamation commence. Mais, justement, le premier verset nous donne aussi une différence qui tient dans ces 3 mots. Ses disciples s'approchèrent. Jésus gravit la montagne et ses disciples s'approchèrent. Cela n'a l'air de rien, mais justement, dans l'épisode du mont Sinaï, il était formellement interdit de s'approcher. Mieux, non seulement le peuple des Hébreux n'avait pas le droit de monter sur la montagne pour voir ce qui s'y passait, ou pour entendre ce qui s'y disait, mais il ne lui était même pas permis de toucher le bas de la montagne, sous peine de mort. Et cela suscite une question dont on peut entendre l'écho dans le psaume qu'on a chanté tout à l'heure. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Le psalmiste le dit, voici le peuple de ceux qui cherchent la face du Seigneur, mais qui peut gravir sa montagne? Et justement, dans l'Évangile, contrairement à l'épisode du mont Sinaï, les destinataires du message se sont approchés. Il me semble qu'il y a là un point clé de la proclamation des béatitudes, s'approcher du Christ. On pourrait même dire, mais c'est peut-être mon goût pour la montagne et la randonnée qui me fait dire ça, que les béatitudes s'offrent à nous un peu comme 8 chemins permettant de gravir la montagne et de rejoindre le Christ qui nous attend au sommet. Aujourd'hui, c'est en cette fête de la Toussaint que nous entendons cette parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas oublier que ces béatitudes, nous reconnaissons en elles la vie de tel ou tel saint. La soif de justice, la pureté, l'endurance dans la persécution, la simplicité de cœur. Chacun pourra mettre derrière ces béatitudes le nom des grands saints connus de tous et pour lesquels nous avons de la dévotion, ou le nom de personnes beaucoup moins célèbres, mais dont nous savons au fond de notre cœur qu'elles sont aujourd'hui auprès de Dieu. Ces béatitudes ont été pour les saints les chemins de leur sainteté. Et si un saint, c'est quelqu'un qui, dans la vie éternelle, est proche de Dieu, quelqu'un qui, comme le dit saint Jean dans la lettre, dans notre deuxième lecture, quelqu'un qui contemple Dieu face à face, alors ces béatitudes ont été, comme pour les disciples de l'Évangile, ce jour-là, le moyen de gravir la montagne, le moyen de s'approcher de Jésus. Et les huit chemins qui nous sont proposés sont extraordinaires. Ce ne sont pas des itinéraires classiques de randonnée où le dénivelé positif est toujours égal au dénivelé négatif parce qu'à la fin, on revient toujours à son point de départ. Le point d'arrivée, on l'entend, le royaume des cieux est à eux. Ou bien, ils verront Dieu. C'est une randonnée verticale, c'est une ascension. Il s'agit d'aller au ciel. Et là, on sort du domaine de la géographie, il s'agit d'aller au Christ, il s'agit d'aller jusque dans le royaume. Ces huit voies sont d'extraordinaires sentiers, parce qu'elles nous proposent huit façons de vivre, des voies finalement assez simples, non pas faciles à vivre, pas du tout, mais assez simples à comprendre, à imaginer, à désirer. J'en rappelle quelques-unes. Désirer la justice de tout son cœur, avoir une volonté pure, vivre la douceur, chercher à construire la paix. Ce ne sont en fait rien de plus que des façons de vivre dans le monde, des façons de se comporter. Rien de facile, évidemment, mais des chemins assez naturels qui, par la merveille de la grâce de Dieu, nous conduisent jusqu'au surnaturel, c'est-à-dire la vision divine et la pleine possession du royaume. Une des béatitudes donne la promesse de la possession de la terre. Mais la terre qui est promise, ce n'est pas une terre qui se trouve au-delà du désert du Sinaï. C'est la terre qui se trouve en haut de la montagne. C'est la terre où Dieu réside. Si saint Paul a pu dire que les 10 paroles du mont Sinaï étaient incapables de justifier qui que ce soit, en revanche, les 8 paroles des béatitudes ont été, pour une foule d'hommes et de femmes, une voie vers la sainteté. Ce sont d'humbles chemins de vie dans le monde qui ont le pouvoir extraordinaire de conduire ceux qui les empruntent au-delà du monde, ou plutôt vers ce monde où tout est beau, le monde des saints, ce monde qu'on appelle justement la béatitude, le monde de ceux qui ont gravi la montagne et qui, en disciples du Christ, se sont approchés de Dieu. ensemble, redisons la foi que nous avons reçue des apôtres. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.